Laudetur Jesus Christus.
Le pape François poursuit sa thérapie Gemelli à Rome. Dans la chapelle du complexe hospitalier, une messe est célébrée tous les jours à la mi-journée. Nous entendrons certains fidèles présents sur place. François, qui semble avoir repris certaines de ses activités, visites, signatures de décrets, convocations sans date d'un consistoire, le Vatican a également publié son message de carême en cette année sainte. On y revient. À la une de l'actualité internationale, l'avenir de la Syrie se joue en ce moment à Damas. Une conférence a cherché à tracer les lignes d'un futur texte constitutionnel. Une conférence légitime, non, selon des groupes armés dont les Kurdes qui refusent de rendre leurs armes aux islamistes au pouvoir. Et puis enfin, nous irons dans la capitale du Nord Kivu, la ville de Goma est tombée aux mains du M23 il y a un mois. Elle connaît une hausse inquiétante de la criminalité.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Comme chaque soir, l'Église attend des nouvelles du Saint-Père qui en est à son 12e jour d'hospitalisation pour une double pneumonie. À Rome, les fidèles sont invités à prier pour son rétablissement place Saint-Pierre à partir de 21h pour réciter le chapelet. Mais nombre d'entre eux se rendent au plus près du pape. Ils se recueillent en prière à l'entrée de l'hôpital du Gemelli ou dans sa chapelle. L'hôpital Gemelli, c'est là où se trouve le Saint-Père. Françoise Niamen y a recueilli quelques témoignages.
Ma prière, c'est tous les jours que le pape sent bien. J'espère que tout mon cœur.
Nous voulons supporter le Saint-Père avec nos prières, mais pas seulement des prières là où nous sommes de loin, mais être proche de lui en ces moments difficiles. Et nous sommes sûrs que nos prières auront la grâce que nous demandons. Nous venons ici justement en pèlerin d'espérance.
Si nous espérons que les choses aillent pour le mieux, moi, ma prière d'espérance est que le pape guérisse et qu'il continue sa mission. C'est vrai que quand j'ai appris sa maladie avec l'infection qu'il a eue, je me suis sentie un peu découragée. Mais quand je suis partie prier, j'ai dit, Seigneur, c'est ton serviteur, tu ne peux pas le laisser. Mais qu'il te plaise de faire ce que tu as à faire. Mais nous, notre souhait est qu'il guérisse et qu'il continue la mission. Mais que ta volonté soit faite.
Des propos recueillis par Françoise Niamen. Et puis les dernières informations sur la santé du pape sont en tout cas encourageantes. Si la salle de presse n'est pas revenue sur le pronostic réservé, le cadre clinique complexe, elle a fait état d'une légère amélioration. François a reçu la visite aujourd'hui de son secrétaire d'État, Pietro Parolin, et de Monseigneur Peña Parra, le substitut pour les affaires générales de la secrétairie d'État. Et c'est lors de leur visite que le pape a autorisé aujourd'hui la canonisation de deux laïcs du Venezuela et d'Italie et convoqué un consistoire sans qu'aucune date ne soit fixée. Et signe d'une reprise partielle d'activité, deux messages du pape ont été publiés ce mardi, dont le message pour le carême qui arrive. François appelle l'Église à la conversion. Chaque chrétien doit prendre conscience de sa situation de pèlerin, marcher avec les autres enfants de Dieu vers la grande promesse, la vie éternelle. Le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
Le carême fait référence à plusieurs passages bibliques, mais le souverain pontife choisit cette année le long voyage du peuple d'Israël vers la terre promise, raconté dans le livre de l'Exode. Un épisode, explique François, qui nous fait penser à tant de frères et sœurs qui aujourd'hui fuient des situations de misère et de violence, partant à la recherche d'une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leur être cher. Assurant que nous sommes tous des pèlerins, François lance ainsi son premier appel à la conversion, en proposant d'ailleurs une confrontation concrète avec la réalité d'un migrant ou d'un pèlerin durant ce temps de carême, afin de découvrir, dit-il, ce que Dieu nous demande pour être de meilleurs voyageurs vers la maison du Père. Marcher ensemble est fondamental, poursuit le pape, c'est même la vocation de l'Église, et François d'exhorter ainsi à la capacité de nous écouter les uns les autres. Enfin, c'est bien à la conversion, à l'espérance qu'appelle le Saint-Père durant ce temps de carême, cette espérance dans la résurrection qui est la première espérance des chrétiens. Un message qui se conclut sur ces paroles de sainte Thérèse de Lisieux. « Espère, ô mon âme, espère, tu ignores le jour et l'heure. »
Le compte-rendu d'Olivier Bonnel, un message de carême à retrouver sur notre site internet vaticannews.va. Vous y retrouverez également toutes les informations, bien sûr, concernant la santé du pape. L'avenir de la Syrie se dessine. Deux mois et demi après la chute de Bachar el-Assad, une conférence de dialogue national s'est tenue à Damas aujourd'hui. Le président par intérim Ahmad al-Sharea y a réaffirmé l'engagement de l'État à maintenir le monopole des armes, soulignant l'importance de l'unité nationale. Cette conférence, marquée par l'absence des Kurdes et de leurs forces, constitue la première étape d'un processus de réconciliation visant à redéfinir la Syrie après des années de guerre civile. La correspondance de Mohamed Erami.
Avec un taux de participation de 97% sur 570 personnes, la conférence du dialogue national syrien s'est achevée en établissant un plan de réforme en 6 axes. Justice transitionnelle, constitution, institution, liberté, société civile et économie. Selon Hind Kaibat, membre du comité préparatoire.
Nous ne pouvons pas rester silencieux face à l'injustice. Ma sécurité en tant que chrétienne dépend de la sécurité de mes frères alaouites et sunnites, tout comme elle dépend de celle de tous les Syriens. Nous ne pouvons pas accepter la marginalisation d'aucun groupe ou composante nationale, car nous sommes tous les enfants de ce pays.
En revanche, certains participants, comme le doyen de la faculté des sciences politiques de l'université de Damas, le docteur Khalil Abdou, estiment que ce n'est qu'une première étape et que le pays a encore un long chemin à parcourir.
Il y a effectivement une tentative d'imposer des diktats aux Syriens avec des modèles et des solutions préconçues. C'est pourquoi le président al-Sharaa a souligné que cette société possède ses propres spécificités et qu'il est inacceptable d'importer un système étranger pour l'appliquer aux Syriens.
Le président syrien Ahmed Sharaa a ouvert la conférence en réaffirmant son rejet de la division du pays et en refusant d'autoriser les factions à posséder des armes en dehors du cadre de l'État.
Notre correspondant Damas, Mohamed Erami. Puis dans leur déclaration finale, les participants à cette conférence à Damas ont dénoncé tout à l'heure les déclarations provocatrices du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, affirmant que son pays ne permettrait pas aux forces syriennes de se déployer au sud de Damas. En Israël, le chef de l'opposition, Yair Lapid, tente de séduire son voisin égyptien en échange, dit-il, d'un allègement massif de sa dette. Il souhaiterait que l'Égypte assume la responsabilité de la bande de Gaza pour 8 ans, une fois la guerre terminée sur place. L'Iran ne négociera pas directement sur son programme nucléaire avec les États-Unis, déclaration du chef de la diplomatie iranienne, alors que son pays accueille ce mardi Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Les deux alliés de l'ancien président syrien Bachar al-Assad évoqueront la situation au Proche-Orient. 7000 morts au moins dans l'est de la RDC. Comment obtenir un cessez-le-feu ? Une médiation africaine vient d'être nommée aujourd'hui pour trouver une solution de paix au nord et sud Kivu. 3 anciens dirigeants du Kenya, de l'Éthiopie, du Nigeria ont été choisis tout à l'heure par les dirigeants des pays d'Afrique australe et de l'Est pour devenir les facilitateurs d'un processus de paix. Il s'agit également de garantir un accès humanitaire aux populations congolaises passées sous le contrôle du M23 des troupes rwandaises, de rouvrir ainsi l'aéroport de Goma. On retrouve sur place Augustin Mossangué, il est notre correspondant dans la capitale du Nord Kivu.
Il ne passe pas une nuit sans que des personnes armées n'effacent la loi dans certains coins de la ville de Goma. Assassinats ciblés ou règlement de compte, la plupart des cas de cambriolage finissent avec de morts. Le cas le plus récent est le décès d'un jeune homme nommé Justin Roussina la nuit d'hier. Un sentiment de peur envahit la ville. La sécurisation de la ville devient un casse-tête. Un mois après sa chute, de nouvelles autorités renforcent le couvre-feu des opérations des patrouilles. Mais dans une ville où les évadés de la prison centrale du Nord Kivu sillonnent, où les militaires qui n'ont pas pu fuir la guerre sont encore présents, les jeunes d'Iwazalendo se cachent avec des armes ramassées ça et là pendant la fuite de militaires des forces armées congolaises. Il devient donc difficile de dire qui est vraiment l'auteur de l'insécurité. La semaine dernière, 10 des jeunes ont été tués au quartier Kasika en pleine journée. Les autorités urbaines n'ont pas communiqué sur la cause de leur mort. Goma, Augustin Monsingue pour Radio Vatican.
Et comme une mise en garde aux auteurs de violences dans l'Est, le procureur de la Cour pénale internationale est en visite à Kinshasa. Au Tchad, on présente ces élections comme la dernière étape de la transition politique après le putsch ayant suivi la mort d'Idriss Déby. Les premières élections sénatoriales de l'histoire du pays se sont tenues ce mardi. Les résultats sont attendus d'ici la fin de journée. À la une de l'actualité internationale, il y a aussi l'addition des dommages infligés par la Russie à l'Ukraine en 3 ans de guerre. Au-delà du bilan humain catastrophique, la Banque mondiale chiffre le coût de la reconstruction avec 13% du parc immobilier endommagé ou détruit, sans parler des infrastructures énergétiques. Eh bien, le coût de la reconstruction dépasse 500 milliards d'euros si bien sûr la guerre s'arrêtait aujourd'hui. Et demain, Emmanuel Macron, le président français, rendra compte à ses partenaires européens du tête-à-tête qu'il a eu hier soir à Washington avec Donald Trump. Une réunion en visioconférence réunira les 27 avant le Conseil européen extraordinaire du 6 mars. Il portera sur l'Ukraine et la défense européenne. Et s'il ne fait plus partie du club européen, le chef du gouvernement britannique tentera de rapprocher jeudi Donald Trump de l'Europe lors d'une visite à Washington. Keir Starmer a annoncé tout à l'heure à la Chambre des communes que le Royaume-Uni s'apprêtait à son tour à une augmentation de ses dépenses de défense. Elles s'élèveront à 2,5% du PIB d'ici 2027. Et cette hausse se fera au détriment du budget britannique dédié à l'aide internationale au développement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde, de l'Église dans le monde et bien sûr du pape François revient demain matin à 8h30. Excellente soirée.